Vous êtes sur RTL.
Parole.
Pascal Pro sur RTL.
C'est donc Thierry qui est routier, qui habite dans le Val-de-Marne et qui est le premier à s'exprimer sur le jugement de Nicolas Sarkozy.
Oui.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous choque, Thierry ?
Mais ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression qu'on assiste à un règlement de compte des juges vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et principalement vis-à-vis des hommes de droite. Voilà, tout simplement. C'est ça qui me choque.
Pourrais vous répondre que Jérôme Cahuzac a été condamné.
Oui, mais Jérôme Cahuzac peut exercer. Depuis, il peut exercer son petit boulot tranquille sur son île en Corse. Et un homme politique qui a été quand même très connu en France. Moi, je vais citer Monsieur Mitterrand. Lui n'a jamais été jugé. On a eu l'affaire Elf, on a eu le Rainbow Warrior.
Il n'a pas été jugé cadavres. Parce qu'il n'a pas été mis en examen non plus. Et puis on va peut-être laisser François Mitterrand parce que tout cela.
Il fallait peut-être aussi qu'un juge se mette à la patte pour qu'il y ait une mise en examen.
Mais restons sur Nicolas Sarkozy parce que c'est ça qui est intéressant.
Sur Nicolas Sarkozy, tout simplement, je pense que il voulait le scalp de Nicolas Sarkozy. On sait bien que c'était pas le grand amour entre la magistrature et Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République, parce que là, il y a rien qui tient debout.
Mais quand vous dites qu'il n'y a rien qui tient debout, c'est-à-dire que vous avez lu, par exemple, les différents papiers, vous êtes renseigné, vous savez précisément l'affaire, comment elle est articulée?
Bien sûr, Pascal, je lis, j'écoute, j'essaie de m'informer au maximum.
Parce que moi, j'ai parfois l'impression que chacun a un avis en fonction de sa sensibilité politique et au fond, a d'abord une opinion avant d'avoir... Pardonnez-moi de le dire comme ça, travailler un peu le dossier. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous savez précisément ce qu'on reprochait à Nicolas Sarkozy? Les écoutes, par exemple, ces fameuses écoutes, est-ce que vous savez ce qui s'est échangé entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy?
Et normalement, en toute logique, si ça a été des échanges entre avocats et clients, en toute logique, ces écoutes sont illégales.
Et elles ont été, là, comme vous le savez, validées d'abord par la Cour de cassation, validées ensuite par la Cour européenne des droits de l'homme, etc.
Voilà, mais c'est drôle que ça tombe, comme par hasard, sur M. Sarkozy. Oui. Moi, je me pose des questions. Bien sûr, vous avez bien compris que ma sensibilité va légèrement à droite, comme vous dites, on est d'accord.
Oui, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. Je rappelle, là, au départ, la Cour d'appel de Paris avait validé les écoutes de l'ex-chef de l'État, parce que qui s'est pourvoyé ensuite en cassation.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, a priori, les écoutes entre un client et son avocat, a priori, sont recouverts de la confidentialité. Ça, c'est un principe. Mais, manifestement, il y a des exceptions.
Ah voilà, des exceptions.
Parce qu'en fait, on a considéré que M. Herzog, au moment où il parlait avec Nicolas Sarkozy, ce n'était pas son avocat. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque l'affaire n'était pas ouverte ou l'instruction n'avait pas commencé.
Oui.
Il n'était pas mis en examen à ce moment-là.
Là, on joue avec certaines règles, à la limite que seuls les juges peuvent à la limite décider eux-mêmes. Parce que à ce moment-là.
Non, mais c'est factuellement juste, puisque en 2013, en fait, à l'époque, parce que les gens sont perdus, évidemment, dans ce dossier. En fait, les juges, moi, ce qui est tout à fait étonnant, les juges décident de mettre Nicolas Sarkozy sur écoute en 2013. C'est à ce moment-là le principal opposant de François Hollande, et ils le mettent sur écoute dans le cadre d'une enquête sur un possible financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Donc on est en 2013, nous sommes d'accord, et ils vont écouter au hasard des échanges sur un autre sujet qu'ils n'étaient pas venus chercher, hein, vous me suivez?
Oui, jusque-là, oui, je suis très bien, je suis très très bien. Mais je maintiens que, de toute façon, dès le début, il y a toujours eu une enquête à charge. Il n'y a jamais eu une enquête à décharge vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Dès le début, de toute façon, c'était fait à charge. Et tout a progressé dans ce sens-là. Moi, c'est mon opinion.
Non, mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant de vous écouter et qu'on va écouter évidemment d'autres témoignages. Moi, ce qui me frappe depuis hier, c'est que, alors je ne sais pas si c'est une tendance ou pas, ou si c'est parce que ce sont des gens qui écoutent RTL, mais il y a plus de gens qui défendent Nicolas Sarkozy que de... que d'auditeurs qui l'attaquent depuis hier soir. C'est une grande tendance. Merci Thierry.
Mais c'est moi qui vous remercie, Pascal.
Merci Thierry. Je salue Greg Caradoni. C'est un jour particulier.
Bonjour à tous.
Vous n'étiez pas né il y a 30 ans, cher ami.
Si, si, si. Bien sûr.
Vous étiez tout petit.
J'avais 9 ans.
Ah bon, quand même.
Oui.
Ah, vous faites jeune. Et c'est vrai que ces 30 ans viennent de passer incroyablement vite. Et le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg disparaissait. Je ne sais pas si... Il est dans votre playlist ou pas ?
Bien sûr, bien sûr. J'ai un tas de chansons prêtes. Il suffit que vous me donniez un nom et puis on pourra en écouter plusieurs.
On peut peut-être écouter Six and Sun, pourquoi pas, pour commencer.
Ah bah si ça vous fait plaisir.
C'était un tube, c'est pas du... Peut-être les Gainsbourgophiles, je suis pas sûr que ce soit le titre qu'ils préfèrent, mais c'est aussi un titre qui a eu un grand succès.
Six and Sun. Le soleil.
C'est votre préféré ?
Non, c'est une époque. Tube énorme, 1977. Énorme, en pleine vague disco.
Temps 18.
La pub, à tout de suite.
17 ans à la limite. Tu ressuscites.
Si 17 ans, la limite. Vous entendez cette petite phrase, 17 ans la limite. Petite, aujourd'hui, ça passe plus. Toi, petite, tu es de la dynamite. C'est pour ça que les gens célèbrent Gainsbourg, mais à l'aune des critères d'aujourd'hui, je ne sais même pas si ces chansons passeraient.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je salue Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Un jugement sans précédent. Nicolas Sarkozy est devenu le premier ancien président de la 5e République condamné à de la prison ferme. Un an pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien chef de l'État fait appel. La droite dénonce un acharnement judiciaire. Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il été jugé comme n'importe quel Français ? C'est ce qu'affirme Jean-François Bonner, le procureur national financier, invité de RTL ce matin.
Le PNF ne fait pas de politique. Le PNF ne connaît pas non plus d'infractions politiques. Le PNF connaît des infractions économiques et financières. Lorsqu'il y a quelques années, j'étais en tribunal en région, au tribunal de Strasbourg, lorsque je requérais contre des voleurs à la roulotte, je le faisais exactement de la même manière, de façon proportionnée aux faits commis.
Vous nous dites que Nicolas Sarkozy a été jugé comme n'importe quel Français.
Je l'affirme haut et fort.
Des propos qui ont fait réagir maître Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy. Elle était l'invitée de Christelle Robillard de RTL Midi.
La défense ne fait pas de politique. Je pense qu'il est important de le dire, elle fait du droit. Je l'ai lu moi aussi pendant la nuit, ce jugement. Sur les 254 pages, il y a 20 pages de motivation. Je crois qu'il est quand même important de le rappeler. Le reste, c'est un rappel des faits, c'est un rappel des éléments de la procédure. Et il y a 2 paragraphes de motivation sur un élément essentiel de la démonstration juridique. Et lorsqu'il vient affirmer sur votre antenne que le président Nicolas Sarkozy a été jugé comme n'importe quel justiciable, je pense que ce n'est pas exact.
Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il été jugé comme n'importe quel Français ? Cyril, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole, parle d'une justice politique. Acharnement, rajoute Jacqueline, de la vengeance gratuite pour Thomas. Étienne dit avoir quelques doutes sur l'impartialité. Si la justice pouvait mettre autant d'intérêt pour les victimes du quotidien, ce serait utile aussi. Des avis que ne partage pas Ruya sur nos réseaux sociaux. La justice française en sort grandie. Quelle honte d'entendre les soutiens de Nicolas Sarkozy crier au complot et remettre en cause l'intégrité des juges. Pour Karine, il a été jugé comme n'importe quel citoyen français. Un enferme, ce n'est pas cher payé, trouve au contraire Julien. Mais l'élection présidentielle approche, observe Véronique, on élimine comme on peut les potentiels candidats.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que le parquet national financier, c'est une institution judiciaire française créée en décembre 2013 et dans le cahier des charges, elle est là pour elle est chargée de traquer la grande délinquance économique et financière. Et il me semble que cette affaire n'entre pas tout à fait dans ce cahier des charges, puisqu'il ne me semble pas que ce soit une grande délinquance économique et financière. Les intérêts financiers étaient assez minimes là-dedans. Mais manifestement, cette question, elle est assez peu ou pas posée. François est avec nous. Bonjour François, vous habitez dans le Nord.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Bonjour. Sur ce sujet, je suis assez partagé, mais je me demande comment on peut. Effectivement, je pense que Nicolas Sarkozy a été jugé comme comme la loi l'impose, mais est-ce qu'on peut considérer Nicolas Sarkozy comme un citoyen normal quelque part quand on a été président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs, pas plus Nicolas Sarkozy qu'un autre. Est-ce qu'on est resté ou est-ce qu'on reste un citoyen normal?
Bah, je vous pose la question. Vous en pensez quoi?
Pour moi, on ne l'est pas forcément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être traité comme tout le monde, c'est-à-dire plus ou moins bien que vous et moi. Je veux dire.
Bah, c'est la même question, parce que poser la question, c'est sous-entendre qu'il ne. En fait, dans la question que vous posez, est-ce que il doit être plus sévèrement condamné s'il fait une faute? Parce qu'il y a un devoir d'exemplarité chez un ancien président de la République ou une personne importante de l'État. C'est ça la question que vous posez. Donc je vous la retourne.
Alors, il ne faut pas, on ne peut pas nier la notion d'exemplarité. Enfin, je partage ce point de vue. Pour moi, quand on est en responsabilité, la notion, quel que soit le niveau de responsabilité qu'on exerce d'ailleurs, la notion d'exemplarité est importante.
Je suis un peu d'accord avec vous. Et c'est vrai dans une entreprise aussi.
Mais bien sûr, monde de l'entreprise, c'est très vrai dans le monde de l'associatif, c'est très vrai dans le monde politique, c'est surtout vrai, c'est peut-être un peu plus exigeant dans le monde politique d'ailleurs, que ça soit dans le monde syndical également. L'exemplarité est importante. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on a cette notion d'exemplarité, on doit être jugé plus durement que les autres. On est jugé au regard de la loi, ce qui m'embête dans cette...
Ah bah oui, mais là, c'est antinomique, ce que vous dites.
Alors,
Pour les mêmes faits, l'affaire Sarkozy, mais pour les mêmes faits, est-ce qu'un ancien président de la République doit être jugé plus durement qu'un autre? Bah oui, s'il y a le devoir d'exemplarité.
Oui,
c'est la conclusion de ce que vous dites, me semble-t-il.
Sauf que dans ce jugement, je ne le retrouve pas, ça, quelque part. Parce qu'on entend ce matin le questeur de l'Assemblée nationale qui dit, qui fait référence à une jurisprudence constante européenne, et dans le même temps, on a le procureur du parquet financier qui dit, j'ai la validation de la Cour de casse et de la de cette Cour européenne, sur le même sujet, c'est-à-dire les discussions entre un avocat et son client. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, pour des gens qui ne connaissent pas la justice comme moi, je veux dire, ça devient très compliqué à comprendre, et que quelque part, on se demande si ce n'est pas un jugement de Salomon qui justement ne tient pas compte de l'exemplarité mais en même temps tient compte d'une procédure engagée depuis 9 ans. Il faut bien rendre une justice et on s'appuie sur les choses. J'ai l'impression du jugement de Salomon, c'est-à-dire où on est coupable et à ce moment-là, eh bien, on prend ce qu'on doit prendre au regard de la loi et des critères fixés par la loi française, où on n'est pas coupable, et manifestement, ce que j'ai pu entendre aussi en disant, il y a, sur 250 pages, il y a 20 pages 2, etc. Et à ce moment-là, eh bien, on a un jugement qui est adapté à la non-culpabilité, ou au moins qui tient compte des circonstances particulières. Là, j'entends aussi que ce qui est très embêtant, c'est que normalement, on ne commande pas une décision de justice, hein, ça, c'est un principe démocratique, et qu'on a une procédure qui va partir en appel. À partir du moment où la procédure part en appel, on a quand même quelqu'un qui est maintenant, qui redevient présumé innocent. Je veux dire, enfin voilà, c'est la complexité de ce jugement. Je crois moi beaucoup à l'exemplarité. Maintenant, l'exemplarité, comment se traduit-elle en justice? C'est là la difficulté. C'est là la difficulté. Et l'exemplarité est à l'appréciation, elle est à votre ou à mon appréciation, ou à l'appréciation des hommes et des femmes qui l'amènent. Mais la loi doit-elle tenir compte de l'exemplarité? La loi est la loi. Elle est indivisible, elle est unique, elle est applicable à tous. C'est là la complexité de ce dossier.
Bah merci François, merci de ce témoignage. Léo est là également. Bonjour Léo, qui est étudiant. Et c'est bonjour. Intéressant d'avoir une autre sensibilité, peut-être à l'antenne. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Léo, quel est votre sentiment?
Mon sentiment, déjà, c'est que, en effet, c'est important de démêler un peu les différents ressorts de cette affaire. Mais déjà, ce qui est important de voir, c'est que Sarkozy, il vient d'être condamné pour avoir corrompu un juge dans le cadre d'une autre affaire.
Non, ça, pardonnez-moi, mais non. Part de ce que vous dites est factuellement pas vrai. Il n'a pas corrompu un juge dans une autre affaire. De quel juge vous parlez?
Le juge qui s'est vu offrir un poste à Monaco.
Il l'a pas corrompu, puisque même le tribunal n'a pas reconnu la corruption.
Corruption, trafic d'influence.
Mais c'est la difficulté de parler de ces sujets-là, ce que vous dites n'est pas la même chose. Il y a pas de corruption, il y a pas de corrupteur. Donc il y a une intention peut-être.
Par l'intermédiaire de son avocat.
Mais non plus. ce que vous dites est factuellement faux.
Eh bien, écoutez...
c'est ça qui est... Pardonnez-moi de vous le dire aussi brutalement, parce que même le tribunal ne reconnaît pas cela. C'est-à-dire que c'est...
C'est pas ce qui est retenu dans la presse.
Mais c'est, vous avez, alors pardonnez-moi aussi de le dire comme ça, parce que c'est pas agréable, mais c'est ce qui est écrit dans la presse. Parce que la presse, il n'y a pas de corruption et il n'y a pas de corrupteur. La corruption n'est pas avérée, d'abord elle n'a pas eu lieu. Et le corrupteur, ce n'est pas retenu. Donc ce qu'on retient simplement, c'est l'intention à travers des échanges téléphoniques. D'une intention qu'aurait pu exister permettre à M. Azibert d'avoir un poste, ce qui est vraiment largement différent.
Écoutez, vous l'entendez comme vous voulez, mais en tout
non
cas...
Non mais je ne l'entends pas, là, c'est le tribunal.
Les juges ont estimé que l'ex-locataire de l'Élysée s'était rendu coupable de corruption en promettant depuis début 2014, par l'intermédiaire de son avocat, Maître Herzog, un coup de pouce à Gilbert Azibert pour un poste à Monaco. Bon, ça c'est les faits, vous le voyez comme vous voulez. Toujours est-il que c'est dans le cadre d'autres affaires, parce que Sarkozy, c'est le président qui disait lui-même en 2014 que quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Et en réalité, Nicolas Sarkozy, c'est un multirécidiviste.
Ce que vous dites est faux. Tous, ce que vous dites, Léo, est faux. C'est-à-dire que
10 affaires entre 1995 et 2012. C'est factuel.
Sauf que dans ces 10 affaires, il n'a jamais été condamné.
Ok, ça c'est la première condamnation.
Vous rendez compte de ce que vous dites. Léo, que vous soyez anti-sarkoziste, ça vous avez parfaitement le droit. Mais ce que vous dites est faux. C'est-à-dire que 10 fois il est allé dans la justice, 10 fois il a été ou relaxé ou blanchi ou non lieu. Mm-hmm. Donc 10 fois, il n'y a rien eu en fait. Et vous vous dites, pour l'ensemble...
Chose, c'est qu'en effet, la justice est bien complaisante à l'égard de Nicolas Sarkozy.
Ah oui, non mais ça, c'est votre avis.
Et plus complaisante que ce que lui, il exige de la petite délinquance.
Non mais ça, c'est...
notamment de ce que je viens de
je vous répète, ça, c'est votre avis. Mais vous dites multirécidiviste. Non, les mots ont un sens. Il n'est pas multirécidiviste, puisque 10 fois, dans 10 procédures... Non mais, dans 10 procédures différentes, il a été, je le répète, ou non lieu, ou relaxé, ou blanchi. Vous vous rendez compte pourquoi ces discussions, elles sont difficiles? Parce que dans ce que vous dites, il y a de la passion, ce que je peux comprendre. Vous, vous êtes anti-sarkoziste, vous pensez que c'est le diable, si j'ose dire. Bon, mais c'est votre avis, vous avez sans doute raison pour vous. Mais vous ne pouvez pas employer des termes comme vous les employez, parce qu'ils sont faux. Ce n'est pas un multirécidiviste, c'est tout.
Moi, je le signe, je l'affirme, Nicolas Sarkozy est un délinquant de grand chemin, qui exige pour la petite délinquance
c'est votre opinion, et je ne la conteste pas.
Et son mandat de ministre de l'Intérieur depuis Chirac, et la réalité, c'est qu'il est en train, celui qui voulait faire la guerre à la racaille, est en train de tomber,
Mais ça a l'air de vous faire plaisir, manifestement.
Pour une affaire de trafic. Et de trafic d'influence,
Léo,
et de corruption.
Comme ça a l'air de vous faire plaisir, et finalement, faut que chacun ait une jouissance personnelle dans la vie, je suis content pour vous si c'est votre jouissance personnelle. En revanche, comme il est 13h21, restez avec nous, parce qu'on va marquer une pause, et puis nous poursuivons notre petite discussion amicale, bien évidemment, mais quand même, j'essaye d'être modérateur, bien évidemment, et de donner les choses, et de dire les choses telles qu'elles sont. La pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors Léo est avec nous, il est étudiant et manifestement il ne porte pas Nicolas Sarkozy dans son cœur. Même si vous savez Léo qu'aujourd'hui, comme l'ancien président de la République a fait appel, il est présumé innocent. Donc pour le moment, son casier judiciaire est vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le casier judiciaire de M. Sarkozy. À l'heure à laquelle nous parlons, il est présumé innocent. Mais Charles est avec nous et peut-être que c'est avec Charles que vous allez pouvoir engager la conversation, parce qu'il semble que Charles ne soit pas forcément sur votre longueur d'onde. Bonjour Charles.
Bonjour Pascal et bonjour à Léo. Je suis pas choqué par les propos de Léo, parce que il procède d'une méconnaissance du droit, de la justice, donc on peut lui pardonner, puis il est jeune et très certainement passionné. Moi, j'étais ni soutien de Nicolas Sarkozy, ni opposant à Nicolas Sarkozy, mais au gré, si vous voulez, des affaires, je me suis quand même intéressé au fond des dossiers, et vous parliez tout à l'heure avec Thierry sur le fait qu'il faut s'intéresser au fond, il faut se documenter. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai vraiment lu toutes les audiences. France. Et alors, j'ai écouté encore une
vous
fois...
Vous êtes juriste, hein, c'est important
oui,
de juriste. Préciser.
Oui, tout à fait. J'ai écouté Maître Lafont ce matin, donc l'avocate de Nicolas Sarkozy, qui disait quand même que il y avait un problème de forme avant le problème de fond. C'est-à-dire que il y a une enquête préliminaire dans laquelle il y a eu un traitement de défaveur et des moyens absolument disproportionnés par rapport à tout justiciable. C'est-à-dire que si on reprend les termes de Léo qui dit Nicolas Sarkozy s'était engagé à débarrasser de la racaille les banlieues, etc. Ben, en fait, le parquet a fait la même chose pour Nicolas Sarkozy, mais 10 fois plus puissant que ce qu'on ferait pour n'importe quel délinquant. C'est-à-dire qu'on a mis plusieurs portables sur écoute pendant des années en utilisant une technique qu'on appelle les filets dérivants. Et donc, en mettant plusieurs personnes sur écoute, on a fini par avoir des bribes de conversation. Et ces bribes de conversation conduisent à penser que, éventuellement, il pourrait y avoir une construction corruptive. Voilà. Alors, après, il reste à chercher les preuves et les éléments factuels. Et on n'a pas pu les trouver. On n'a pas pu les trouver parce que, avec les moyens qu'on s'est donnés dans l'enquête, parce que ils n'ont pas existé. C'est-à-dire qu'en droit, on est devant de l'imagination, de la construction intellectuelle, de la présomption, de l'interprétation, comme on le disait hier. Et donc, on a une condamnation qui tombe.
Alors Léo, peut-être, va vous répondre. Est-ce qu'il est convaincu par cette démonstration ?
Non, je suis pas convaincu. Déjà, vous dites en 10 fois plus puissant que les contribuables, etc. Nicolas Sarkozy, c'est quand même quelqu'un qui, pendant son mandat présidentiel, a porté un projet de loi pour pouvoir condamner jusqu'à 2 ans de prison, d'accord, des parents de mineurs délinquants. C'est quelqu'un qui, avec ses compères, a mené la guerre à la petite délinquance. C'est quelqu'un qui disait en 2015 « Je souhaite qu'il n'y ait pas de mesure d'aménagement de peine pour les peines supérieures à 6 mois ». D'accord, il disait ça en 2015. Alors pourtant que lui-même, et c'est pour ça que la décision, évidemment, elle fait plaisir, mais elle fait quand même bien rigoler, alors même que sa peine, elle va être aménageable, elle va pouvoir être réalisée très certainement
peine,
à domicile, à en croire la présidente du tribunal.
Il y a pas
avec
peine,
un bracelet électronique.
Léo, on vous répond. Charles vous répond.
Il n'y a pas de peine, d'accord, il fait appel. En attendant, il a été condamné. Il fait appel, mais il a été condamné. Et sa peine, s'il l'écoule, il va très certainement pouvoir l'écouler à la villa de Montmorency, dont il est propriétaire dans le 16e, ou à la demeure de Carla Bruni, au Cap-Nègre.
Oui, oui.
Donc, évidemment que.
On sent, Léo, que ça vous fait plaisir.
Les jeunes de banlieue en France, à qui il faisait la guerre, et il a même mis le feu aux poudres en 2005 quand il était ministre de l'Intérieur après la mort de deux jeunes, Ziad et Bouna, qui étaient poursuivis par la police. Bon. Évidemment que ces jeunes-là, les gens qui ont été emprisonnés pendant le mouvement des Gilets jaunes, etc., bon. Tous ces gens-là...
Léo, on est sur d'autres sujets.
De passer leur peine quand ils sont condamnés à de la prison ferme dans les mêmes conditions que Nicolas Sarkozy.
Bon.
Donc, à un moment, faut arrêter les blagues. Faire verser des larmes de crocodile sur Nicolas Sarkozy qui, oui, est un délinquant multirécidiviste, un bandit de grand chemin.
Léo, vous savez que ce que vous dites, et faites attention à vous parce que ça tombe juste sous le coup de la diffamation. C'est-à-dire que si quelqu'un voulait vous attaquer pour multirécidiviste, bandit de grand chemin, etc., il pourrait le faire. Donc, on va laisser passer une page de publicité. On va vous remercier, Léo, parce que c'était intéressant d'écouter aussi une sensibilité.
Et si je peux me permettre,
Léo.
Un dernier élément en 30 secondes. J'invite tout le monde à lire le dernier papier de Mediapart qui démontre très bien que le problème,
qu'il n'est pas du tout partisan,
système,
comme chacun sait, Mediapart, bien
c'est
évidemment.
C'est un système.
Mais Léo, il n'y a pas de souci.
Tous ses proches ont été impliqués.
Ben, voilà.
Macron est un proche de Nicolas Sarkozy, qui était un conseiller de l'ombre.
Tous pourris, Léo. Léo, c'est pas une tribune, donc je suis obligé là de même pas aller jusqu'au bout, malheureusement, parce qu'on vous donne la parole. C'est-à-dire qu'on donne la parole aux auditeurs, et c'est le principe, mais après ça devient une tribune. Donc il est 13h29, la pub à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Évidemment, ces débats sont passionnés, Laurent Tessier.
Et nous vous attendons aussi sur d'autres sujets. Le confinement, le week-end, est-il inhumain ? C'est ce que pense la maire PS de Paris, Anne Hidalgo.
Le préfet de police m'a questionné sur la proposition du gouvernement visant à confiner Paris et la petite couronne le week-end. J'ai dit mon désaccord avec cette proposition. Une proposition que je trouve difficile, dure, voire même inhumaine.
Réaction de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce matin chez nos confrères de CNews.
On sait très bien que c'est des contraintes en plus, mais il n'y a rien de plus inhumain que le virus. Et si on doit prendre ces décisions, évidemment que c'est parce qu'elles sont nécessaires et qu'on n'a pas d'autre choix.
Vous habitez Dunkerque, le littoral des Alpes-Maritimes. Comment vivez-vous ce confinement le week-end? Eh bien, marre de ces restrictions pour Lauriane sur la page Facebook de l'émission. Laissez-nous respirer un peu, je n'en peux plus. Mais pour Michel, si les gens ne s'agglutinaient pas à l'extérieur, les uns collés aux autres dans les parcs, les rues et même souvent sans masque, on n'en serait pas là. Et vous, qu'en pensez-vous? 32-10. Les semaines qui arrivent vont être difficiles. Ce sont les mots du Premier ministre Jean Castex ce matin devant les députés de La République En Marche. Emmanuel Macron a demandé hier de tenir encore 4 à 6 semaines. Pouvez-vous le faire? Attendez-vous ensuite des assouplissements? Oui, réagit Loïc sur nos réseaux sociaux. J'accepte de tenir un peu plus d'un mois si derrière on nous laisse plus de liberté. Et ces propos du chef de l'État vous donnent-ils un peu d'espoir pour la suite? Non, pour Gabriel, à chaque fois il nous a fait le coup. Je reste prudent, je ne ferai aucun pari sur le sujet. Vous verrez que rien ne va changer.
Il est 13h33, nous sommes avec Charles qui est juriste à Lyon, qui est vraiment s'est intéressé de très près au dossier Sarkozy. Et Charles, je vous propose de rester avec nous parce que José est là, qui habite Troyes, qui nous écoute, qui est commerçant. Et José, manifestement, comme Léo tout à l'heure, ne pense pas comme vous, Charles. Bonjour José.
Oui, bonjour. Oui, je voulais réagir parce que je trouve qu'on entend beaucoup de gens indulgents vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qui est un multirécidiviste et qui aujourd'hui...
Ah, José, je ne vais pas redire ça. Vous pouvez pas, le terme multirécidiviste est impossible à employer parce qu'il est factuellement faux. Nicolas Sarkozy n'a jamais été condamné, il ne l'est plus puisqu'il a fait appel. Il a été impliqué dans 10 affaires, 10 procédures, et sur ces 10 procédures, il a été soit relaxé, soit blanchi, soit innocent. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc le mot multirécidiviste est factuellement faux, il n'a jamais été condamné par la justice française.
Écoutez, moi je l'assume, c'est un multirécidiviste.
Mais oui, mais vous toujours... pouvez... ça ne veut rien dire, c'est pas vrai.
Il a des circonstances accablantes, en plus parce qu'il est avocat de formation. C'est quelqu'un qui connaît la loi. C'est quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur. C'est quelqu'un qui, en 2005, comme l'a rappelé l'auditeur précédent, a mis le feu à la France avec ses déclarations de provocation pendant des mois. Ça a duré
des mois.
Mais
ça, c'est un jugement politique, José. Vous avez raison de le dire pour vous, mais c'est une opinion que vous émettez.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est quand même accusé d'avoir reçu des valises d'argent pour payer sa campagne présidentielle.
José, s'il vous plaît. Non, mais José, s'il vous plaît. José, tout ça n'est pas. Je veux bien qu'on ait un débat ensemble, mais vous ne pouvez pas déverser des tombereaux comme cela de faits qui ne sont pas prouvés.
C'est des affaires en cours. C'est toujours des affaires en cours. Le financement libyen.
Je vous le répète, tout cela, rien n'est prouvé. C'est des enquêtes qui sont en cours, comme vous le dites, et parfois des journalistes qui ont enquêté, et ces enquêtes sont contestées. Donc je vous propose de ne pas en parler parce que, par définition, ni vous ni moi ne pourrons avancer sur ce sujet. Donc restons sur le dossier d'hier, si vous le permettez, et donnez-nous votre avis précisément sur ce dossier.
Eh bien, sur ce dossier, je rappellerai juste les propos de M. Sarkozy à l'époque où il avait des responsabilités, qui disait « aucun aménagement de peine au-dessus d'une condamnation de 6 mois ». Voilà, et je voudrais juste qu'on puisse appliquer ça à M. Sarkozy
mais pourquoi pas
et également à son ami Balkany, qui est sorti un peu trop vite de prison pour venir à nouveau faire de la provocation.
Monsieur José, pourquoi pas? Mais comme il a fait appel, ce que vous dites est caduc. Il a fait appel hier.
Tout à fait, il a fait appel.
Donc, dans ces cas-là, s'il a fait appel et qu'il n'y a pas eu de mandat de dépôt de fait, ben, la procédure court.
Tout à fait, mais je souhaite que cette procédure aille à son cours et que aujourd'hui, en France, ces gens-là, ils ne passent pas encombrer la justice, ils jouent des procédures et aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un Sarkozy a pris un an de prison ferme, les gens vous rigolent au nez, disent il n'ira jamais. Voilà l'image que les gens ont de la justice. Tout le monde sait que cette personne a passé sa vie à faire des coups tordus.
Mais personne ne pense ça, pardonnez-moi de le dire. Il y a 70% des gens d'RTL à qui on a demandé qui pensent l'exact contraire de ce que vous dites. C'est une consultation, c'est pas un sondage. Donc ne pensez pas que ce que vous pensez, tout le monde pense comme vous. Pensez au moins pour vous, mais ne dites pas tout le monde. Nicolas Sarkozy, il a quelques fidèles, quelques supporters et quelques fans.
Eh bien, écoutez, moi, je
suis désolé. Vous ne les croisez pas, manifestement, mais vous ne pouvez pas dire tout le monde.
c'est quand même le premier président français qui a été condamné à de la prison ferme, même s'il a fait appel, bah, il a quand même eu une condamnation.
Non, cette condamnation n'existe plus. Elle n'existe plus aujourd'hui. C'est ça. Je veux dire, c'est pour ça que ces conversations-là, je le répète, sont compliquées. Elle n'existe plus, cette conversation, cette condamnation. Alors là où vous avez raison, c'est que ça a été la première fois qu'un tribunal l'a condamné, mais par définition, on repart à zéro.
Très bien. Eh ben, écoutez, je souhaite que cette peine soit aggravée, justement, et qu'elle soit la première de toutes les autres affaires, de toutes les autres condamnations qui peuvent lui tomber dessus avec toutes les affaires qu'il a. L'image pitoyable qu'il a donnée de la France avec M. Kadhafi, l'image pitoyable qu'il a donnée de la France quand il était ministre de l'Intérieur en mettant à feu et à sang ce pays, et l'image pitoyable qu'il a donnée en tentant de manipuler la justice.
Enfin, j'ai pas le sentiment que la France était à feu et à sang entre 2007 et 2012. Là aussi, il faut garder des raisons. Je n'ai pas, j'ai vécu cette période comme vous. Entre 2007 et 2012, je n'ai pas le sentiment que la France était à feu et à sang, cher José. Les mots ont un sens. Mais je vois que ces discussions sont passionnées. Moi, je me trouve dans une position difficile parce que je suis en train de défendre Nicolas Sarkozy.
Oui, vous êtes un avocat zélé, d'ailleurs, Nicolas
mais
Sarkozy, depuis deux jours.
Je ne suis pas un avocat zélé, mais j'essaye d'apporter un petit peu de modération. En même temps, c'est les auditeurs ont la parole. Hein.
Très bien, merci de m'avoir donné la parole en tout cas.
Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, José ?
Je suis commerçant.
Bon, et vous êtes dans quel secteur de commerce ?
Dans le bâtiment.
Bon, et ça marche ?
Oui, bah, il faut bien, on n'a pas le choix, vous savez. Hein.
Bon, et manifestement, vous n'avez jamais voté pour Nicolas Sarkozy ?
Non, j'ai toujours voté contre lui.
D'accord. Voilà. Et vous, la prochaine fois ?
Moi, je vais voter. Je ne fais pas partie de ces Français qui s'abstiennent parce qu'ils sont dégoûtés de voir une classe politique comme celle-là qui n'est jamais condamnée.
Bah, elle est souvent, en l'occurrence.
Malheureusement.
Mais vous votez plutôt à gauche, historiquement ?
Moi, localement, je suis pragmatique, c'est-à-dire je vote par rapport à un programme, à des idées. Et sinon, je vote plutôt à gauche.
Bon, bah merci en tout cas de votre franchise et de votre honnêteté, José, parce que c'est...
Merci à vous.
C'est bien de pouvoir échanger.
De m'avoir donné la parole.
Bah non, je vous en prie, c'est le principe de l'émission. Merci. Bon, est-ce qu'on peut écouter de la musique, du coup, pour se détendre un peu ? Je suis venu te dire que je m'en vais,
par exemple, ça peut être... J'aurais plutôt dit « ami ».
La micaouette me fait la tête. Cacaouette. La petite Noé.
Mais par exemple, « Love on the Beat », c'est plus écoutable aujourd'hui. Quand il dit notamment des gamines, etc., affirmatif, bon, c'est plus possible d'entendre ça.
J'ai qu'à appuyer sur un bouton pour l'entendre. Hein.
Ça, c'est inécoutable.
Bon, on fait plus alors.
Publicité, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et donc l'ami Laurent Tessier.
Et nous vous attendons au standard sur d'autres sujets. Le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, défie l'État, le chef de file des Républicains.
Ça, c'est un bon sujet.
Eh oui, au régional, Bourgogne-Franche-Comté, Pascal a autorisé la tenue de la traditionnelle fête foraine dans sa ville du 5 au 14 mars. Il estime que les conditions sanitaires sont réunies. Une décision alors qu'il y a une interdiction préfectorale. Alors, est-ce une mesure inconsciente ? Comprenez-vous cette bataille du maire de Chalon-sur-Saône ? 32-10. Et puis le 2 mars 1991.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Il y a 30 ans, Serge Gainsbourg nous quittait, une crise cardiaque foudroyante alors qu'il était chez lui, seul à Paris. L'homme à la tête de chou est parti à 62 ans. Quel souvenir gardez-vous du chanteur ? L'avez-vous rencontré ? Et Serge Gainsbourg aurait-il pu faire la même carrière aujourd'hui ? Souvenez-vous de ce moment de télévision avec la chanteuse Whitney Houston.
I said I want to fuck her.
Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He said you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs.
Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien la baiser.
Comment aurait-on réagi avec ses chansons, ses déclarations ? Ça aurait été compliqué pour lui, se dit Pascal sur nos réseaux sociaux. Eric parle, je cite, d'un grand mec. Il nous manque comme Balavoine, Coluche, il aurait mis le bazar. L'un des plus grands, certainement pour Thierry. Une intelligence incroyable dans un personnage répugnant. Pour Mathieu, le dernier provocateur du XXe siècle. José parle d'un génie de la musique, le sensible et drôle. Et comment ne pas se souvenir aussi, rajoute Gilles, du billet, 500 francs, brûlé, sa Marseillaise, revisité Gainsbourg. Forever.
Un jour d'enfant de la patrie, un jour de gloire est arrivé.
Alors ça avait fait un vrai scandale. Ça, je me souviens. Vous savez que dans les familles, Gainsbourg, ça divisait. Parce que les jeunes que nous étions aimions Gainsbourg. Mais les plus anciens, il arrivait à la télé parasé. Ce qui était alors là un drame absolu à l'époque. D'arriver à la télé parasé. Et mal habillé et mal peigné. Les plus anciens n'étaient pas contents. Alors, Salim qui était avec nous, mais il est parti, Salim. Il en avait marre, peut-être. C'est dommage parce qu'il était anti-Sarko également, quoi. C'est dommage. C'est toujours bien d'avoir des gens un peu contradictoires. Ah ben, il est revenu, Salim. Tiens, il est en train de revenir. Et Julien est là, qui est étudiant en droit également. Donc, bonjour, Julien. Vous êtes le plus jeune des auditeurs aujourd'hui. Vous avez 19 ans.
Oui, c'est ça. Bonjour, Pascal Proulx. Bonjour.
Je vous en prie. Et puis, Charles est toujours avec nous. Évidemment, il peut intervenir, Charles, s'il le souhaite. Julien, votre avis?
Alors moi, je ne vais pas cacher ma sympathie pour Nicolas Sarkozy. Toutefois, je suis quand même lucide et j'analyse les éléments en mettant de côté ma sympathie pour le président Sarkozy. Alors moi, j'ai quand même quelques remarques déjà au niveau du droit. C'est que les écoutes qui ont été donc retenues dans ce procès, il y a des décennies de jurisprudence qui considèrent que utiliser les écoutes d'une affaire pour en instruire une autre, ça n'a jamais été accepté. Donc utiliser les écoutes de l'affaire Bettencourt pour monter ce dossier, c'était illégal. Je rappelle aussi qu'il y a une jurisprudence de l'Union européenne, donc de la Cour de l'Union européenne, qui considère que ces écoutes ne sont pas légales. Déjà, une première chose.
C'est plus compliqué que vous le dites, mais c'est ça le problème. C'est que même la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que, c'était pas un avocat qui parlait à son client. Vous voyez, c'était parce que l'affaire n'était pas ouverte. C'est ça qui rend le dossier difficile peut-être à comprendre pour les uns et les autres. Il n'était pas l'avocat dans ces cas-là, il n'y avait pas d'affaire. Quand il lui parle, il n'y a rien d'ouvert.
Bon, là, je vous rapporte des éléments de droit qui m'ont été apportés par mes professeurs ce matin, parce que le sujet, bien sûr, était au cœur de toutes les discussions dans les amphis.
Mais la Cour d'appel, par exemple, a rejeté la demande. La Cour d'appel, pardon, a validé les écoutes de l'ex-chef de l'État. Hein. Ça, c'est le 7 mai 2015. J'ai tout le déroulé sous les yeux. Et la Cour de cassation a validé définitivement en juin 2019 le renvoi des trois hommes en correctionnel. Donc à chaque fois, il y a eu des procédures et à chaque fois, les cours d'appel ou de cassation ont validé.
C'est vrai. Mais il y a aussi un autre point. Alors ça, je pense que c'est aussi le plus grave. Alors évidemment, on considère que Thierry Herzog n'agissait pas en tant qu'avocat à ce moment-là, mais quand même la décision qui indique que si le secret professionnel entourant la relation entre un avocat et son client est une garantie primordiale du procès équitable, il n'est pas intangible. Ça, moi, je trouve que c'est quand même grave.
Sauf qu'il ne parle pas à ce moment-là d'une affaire en cours. C'est-à-dire que quand on considère qu'un avocat ne peut pas parler avec son client, on considère, ne peut pas être écouté avec son client, on considère qu'il parle de l'affaire et que là, ils ont le droit à parler de manière librement. Mais là, on considère effectivement qu'en l'espèce, il n'était pas son avocat puisque l'affaire n'avait pas commencé. Je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, je comprends parfaitement, oui.
Donc voilà, Julien. Voilà, mais c'est intéressant dans les amphis. Qu'est-ce qui s'est dit ce matin, par exemple? Ça m'intéresse.
Eh ben, il y en a beaucoup qui, évidemment, jubilaient à cette nouvelle.
Ah bon? Pourquoi?
Dans les amphis, Nicolas Sarkozy n'est pas forcément l'homme politique le plus apprécié de France, on va pas se mentir.
Ah bon? Non, mais je suis pas au courant. Ça dépend des quelles amphis, peut-être, parce que si vous allez à Assas, c'est peut-être pas la même atmosphère qu'à Dijon. Vous êtes à Dijon?
Oui, c'est ça. Mais vous savez, même à droite, finalement, Nicolas Sarkozy n'est pas très apprécié. Proche du syndicat étudiant uni à Dijon, et je peux vous dire que Nicolas Sarkozy est absolument détesté par tous ses membres.
Ah bon? Même par l'Uni?
Oui, l'Uni de Dijon en tout cas, par ses membres.
Bah écoutez, c'est... mais les étudiants de droit, généralement, ça penche plutôt à droite quand même, Julien?
Certes, mais bon, mon ancien, peut-être une exception, je ne sais pas.
Non, mais on sait par exemple qu'en fac de sociaux, généralement, on penche plutôt à gauche et a priori, de mémoire, moi j'étais dans des amphis de droit, ça penchait plutôt un petit peu à droite.
Oui, mais vous le savez, Nicolas Sarkozy, on a déçu beaucoup, donc finalement, même à droite, il y en a qui peuvent se réjouir de cette décision.
Ben merci Julien, merci. On aura peut-être l'occasion de parler d'autres choses tout à l'heure et notamment de Serge Gainsbourg, monsieur Karanoni.
Avec plaisir, on peut écouter la balade de Melody Nelson, en tout cas un extrait si vous voulez.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Et si vous voulez écouter l'intégralité de l'album de Melody Nelson, vous pouvez évidemment l'écouter sur les plateformes, mais écoutez Eric Jean-Jean ce soir aussi pour bonus track qui fera une spéciale Serge Gainsbourg avec Philippe Manœuvre qui viendra parler de
ça. C'est superbe, Melody Nelson. Gainsbourg. Et on pourra écouter aussi des titres qu'il n'a pas chanté mais qu'il a composé ou écrit les paroles, comme Fuir le bonheur.
Bien sûr.
Ça, c'est formidable, Fuir le bonheur. Et puis les titres d'Isabelle Adjani également.
Bonus track, c'est à partir de 21h sur RTL.
À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Salim est là. Et Salim, il est à Bois d'Arcy. Bonjour, Salim.
Bonjour.
Oh là là, ça passe mal là.
Oh là, vous m'entendez là?
Je crois que c'est bien.
Oui, bah, comme d'habitude, je vais finir, je pense, la discussion sur quelque chose qui est un peu apaisant en disant qu'il ne faut pas toucher à Madame la Justice. Alors, je ne veux pas dire ce que je pense de M. Nicolas Sarkozy, mais là, moi, je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que là où je suis content, c'est que depuis 10 ans, je suis tout ce qui est les affaires, l'actualité depuis 10 ans, et j'ai l'impression que la justice, elle reprend sa liberté et qu'aujourd'hui, n'importe qui peut être jugé. N'importe qui peut s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et c'est là où je suis content. Et ça a commencé avec l'affaire Cahuzac. Pourtant, c'était quelqu'un de gauche. Et quand on accuse le PNF d'être très impartial, il y a beaucoup de personnes de gauche qui sont aussi sous le coup d'enquête de la part du PNF. Je vais citer M. Alexis Kohler, M. Bruno Leroux, etc. Donc voilà. Donc moi, je suis content. Et au contraire, c'est la justice. Parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement la justice qui le dernier rempart à tous nos problèmes du quotidien quand on est victime d'injustice. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui.
Bah, c'est
voilà.
Intéressant, Salim. Et vous trouvez, au-delà de ce que vous dites, que c'est justifié? C'est-à-dire que les faits qu'on reproche à Nicolas Sarkozy sont d'abord, selon vous, avérés et ils justifient cette peine?
Moi, je suis horrifié. Depuis hier, j'entends tout le monde parler et dire, vous savez, moi, je suis un spécialiste de l'automobile, c'est mon métier. Je peux parler que d'automobile. Il y a des magistrats, des juges, dont c'est leur métier. Je vais pas me prononcer aujourd'hui parce que j'ai lu 5 lignes d'un article ou parce que j'ai entendu ça ou ça. Je laisse ça aux juges en disant si c'est justifié ou pas. C'est le travail des juges. Ils sont, je ne sais pas combien dans ce PNF. Je pense qu'ils ont des choses à justifier, etc. Enfin, moi, je peux pas aujourd'hui vous dire c'est justifié, pas justifié. Ils ont fait leur travail. Ils ont prononcé une sentence. Aujourd'hui, il y avait en cassation. Si on était dans un pays où il n'y a pas de justice, déjà, il n'y aurait pas de cassation. Voilà. C'est directement mandat de dépôt et tout. Donc voilà. Pour moi, justifié, pas justifié, ils ont fait leur travail. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En disant, voilà. S'ils l'ont condamné, ça veut dire qu'ils ont trouvé des choses. C'est pas à moi de les commenter, c'est à personne de les commenter. Qu'on déteste ou qu'on aime Sarkozy. Voilà. Parce que demain, on peut tous être à la place de M. Nicolas Sarkozy ou même être la partie civile en face de M. Nicolas Sarkozy. Donc,
Charles est avec nous parce qu'il est resté, il était là il y a un gros quart d'heure, oui, Charles. Mais c'est intéressant ce que dit Salim parce qu'il dit qu'il ne faudrait pas commenter. Et en fait, on passe notre temps à commenter des décisions de justice. Cette émission, les auditeurs ont la parole, elle est faite aussi pour analyser, mettre en perspective, commenter. C'est les auditeurs qui parlent.
Il y a eu une interview ce matin, merci. Il y a eu une interview ce matin du patron du PNF qui m'a choqué un petit peu sur certains mots. Notamment, il a dit que Nicolas Sarkozy avait été jugé eu égard à ses anciennes fonctions. D'accord ? C'est vrai que s'il y a présomption de corruption ou de trafic d'influence, c'est vrai que, eu égard au fait qu'il a été président de la République, on peut s'y intéresser de près et sanctionner gravement. Très bien, il l'a dit. Et puis, deux phrases après... Yves Calvi lui a demandé si Nicolas Sarkozy, s'il avait l'intime conviction que Nicolas Sarkozy avait été jugé comme tout autre contribuable, comme n'importe quel contribuable. Et il a répondu, mais bien entendu, ça ne fait pas de doute. Donc, il a été jugé comme n'importe quel contribuable ou eu égard à sa fonction. Et en droit français, il n'y a qu'un seul principe, c'est l'égalité devant la justice et devant le droit. C'est ça qui me choque. C'est que, alors...
L'exemplaritaire, ça peut s'entendre quand même. C'est vrai, on peut considérer...
Si vous permettez, Charles, mais où est la vérité?
Salim vous répond.
Je vous en prie, Salim.
Excusez-moi, cher Arc, vous vous permettez. Moi, j'habite à Bois-d'Arcy, je suis juste un cadre, d'accord ? Si demain, je suis accusé pour les mêmes choses, allez, ça va peut-être impacter 10, 20 personnes autour de moi. Monsieur Nicolas Sarkozy, eu égard de ses fonctions, il était président. Toutes les actions qu'il faisait, oui, effectivement, il était peut-être plus président après, ou je ne sais pas, mais...
Il ne l'était plus.
Ne l'était plus, mais même, je crois qu'il fait partie du conseil constitutionnel, des choses comme ça, mais même oui. Par rapport à son influence et sa
même plus.
Il pouvait toucher 60 millions de Français. C'est pas la même chose. C'est pour ça que.
Mais alors, vous
c'est pas justifiable, mais
ben oui.
on regarde de ce qu'il a, des fonctions qu'il a.
Ben oui, mais il faut choisir. Il faut choisir, Salim. Soit on est jugé en fonction de sa qualité de justiciable français, enfin français ou non d'ailleurs, mais de justiciable, soit eu égard à des fonctions. Moi, ça me choque, si vous voulez, que Nicolas Sarkozy soit condamné à une peine équivalente de Jérôme Cahuzac, qui s'est rendu coupable de fraude fiscale à hauteur, je crois, de 10 millions d'euros. Enfin, est-ce qu'on se rend compte quand même de la proportionnalité de la peine ? Est-ce qu'on se rend compte de ça ? Donc, en termes de justice, moi, je suis heureux qu'on fasse appel, je suis heureux que ce jugement ne soit pas définitif, et je suis heureux que ce soit rejugé en droit.
Eh bien, merci. À 13h57, on va marquer une pause. On va parler d'Anne Hidalgo ensuite. Je crois qu'on va refermer le dossier Nicolas Sarkozy. Puis, je voudrais qu'on parle quand même de Gainsbourg. Gainsbourg et son Gainsbourg. Alors qu'Olivier Bois fait son entrée dans le studio, j'allais dire dans le bureau. Il n'était pas né, Olivier Bois, en 81.
Si,
en
91. Il a 15 ans reçu contre enfin pas Pascal. Quand même.
91, vous étiez né.
Vous me voyez beaucoup plus jeune que je ne le suis.
Faites jeune. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Confiner à Paris serait une mesure inhumaine pour Anne Hidalgo. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pascal.
Vous partagez ou pas ?
Pas du tout.
Olivier Bois dans une seconde. Et vous, Stéphane, vous nous direz pourquoi.
Le flash avec la situation sanitaire qui s'aggrave encore dans l'agglomération de Dunkerque. Le taux d'incidence dépasse les 1000 cas désormais pour 100 000 habitants, malgré les mesures de confinement le week-end. La pression hospitalière est forte également, à tel point que 80 patients en réanimation ont été transférés. Pour entrevoir le bout du tunnel, il faut accélérer la campagne de vaccination. La haute autorité valide le fait que les pharmaciens, infirmiers et sages-femmes puissent rapidement administrer les vaccins quels qu'ils soient. Et il y a des lourdeurs hein, pour preuve sur le 1 200 000 vaccins AstraZeneca livrés à la France fin février, 23% seulement ont été injectés parce que, entre autres, les médecins généralistes ont été beaucoup moins nombreux qu'espérés à vacciner leurs patients. Sur le vaccin AstraZeneca, les autorités le répètent, il est très efficace. Selon une étude irlandaise qui porte sur 1 million de vaccinés, l'AstraZeneca diminue les hospitalisations, quelles que soient les classes d'âge, de l'ordre de 80%. On découvre ce midi l'ampleur des crimes pédophiles au sein de l'Église. Selon la commission indépendante qui fait un point d'étape sur l'enquête qu'elle mène depuis des mois, il pourrait y avoir 10 000 victimes de pédophilie en France dans l'Église depuis les années 50. Le football et le nouvel entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, qui est arrivé donc à Marseille ce matin, il va respecter un isolement de 7 jours maintenant avant de prendre la tête du groupe olympien. Et le quintet à Chantilly, l'arrivée très provisoire. À l'instant, victoire du 2. Il y a photo finish pour le 4, le 12 et le 13. C'est le 9 qui est 5e de la course.
Pascal. Merci Olivier. C'est la fin du flash.
C'est la fin du flash.
Bien sûr, parce que c'était intéressant. 14h02.
Merci.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal.
Encore heureux, Pascal.
Non, je souris parce que vous avez dit le flash, parce que oui. J'aurais pu le dire, effectivement.
Non, parce que oui, vous avez lancé un peu à l'emporte-pièce, on peut dire. Ou quoi, non,
à l'américaine. À l'américaine.
À tout à l'heure à 15h. Merci. Pour un meilleur lancement avec Flavie Flamand, évidemment.
Ça tacle, vraiment, ça tacle. Bon, Stéphane. La mesure serait inhumaine selon Anne Hidalgo. Alors j'ai du mal à suivre exactement Anne Hidalgo parce qu'il y a quelques jours, elle souhaitait que nous soyons reconfinés pendant 3 semaines. Et là, elle dit que le week-end, ce serait inhumain. Je précise la définition selon Larousse de inhumain, qui ne semble pas appartenir à la nature ou à l'espèce humaine et qui est perçu comme atroce, monstrueux, le caractère inhumain d'un crime.
Oui. Bah, moi, ce que je trouve inhumain, c'est de voir le PS, la déliquescence du PS qui continue, quoi. Comme vous dites, elle change d'avis comme de, Voilà. Donc, ce qui est inhumain, c'est, je pense, surtout d'avoir ce genre de propos après avoir les précédents quelques jours auparavant. Voilà. Voilà, voilà. Parce que ce que je constate, c'est que la majorité des gens qui étaient plutôt anti-reconfinement s'aperçoivent, et ce qu'ils trouvent, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, ce qu'ils perçoivent inhumain, c'est un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas trop, c'est ça qui paraît plus inhumain, effectivement. Et je pense que Madame Hidalgo, en ayant ce deux types de propos en quelques jours, reste dans ce caractère inhumain. Après, je suis de la santé, donc je ne serais peut-être pas complètement objectif.
Ben non, au contraire, c'est votre avis qui nous intéresse. Mais quel serait d'ailleurs votre diagnostic sur la période et pourquoi pas votre solution ?
Comme je l'ai déjà dit à votre antenne il y a quelques temps, moi j'étais plutôt d'avis de faire une mesure plutôt dure dès le début. De ce que j'aperçois, de ce qui se passe un peu dans les autres pays, dans diverses régions de France, puisque je suis un intérimaire qui a navigué dans plusieurs régions depuis le début de l'épidémie. Voilà, j'étais plutôt, même si j'essaye d'être humain, de comprendre beaucoup les gens et que moi-même je suis perturbé par ces mesures, voilà, j'aimerais qu'on soit tous enfin un peu solidaires, qu'on essaie de sortir de cette situation, et puis s'il y a des responsabilités, des choses à revoir après, on le verra. Mais pour l'instant, voilà, donc avec ce genre de propos, malheureusement, j'ai beau être du côté de bord de Madame Hidalgo, je trouve que voilà, c'est à cause de ça qu'ils ont chuté et qu'ils continuent à aller dans une aberration totale. Voilà, donc je pense que ça va apporter plus de flou aux gens qu'autre chose, ce genre de propos.
Ben merci voilà. Stéphane pour cet avis. Sébastien est là également, qui est directeur d'une salle de spectacle. Et c'est vrai qu'on l'a régulièrement, Sébastien, on l'a régulièrement. Et c'est vrai que ça fait combien de temps, par exemple, Sébastien, que vous n'avez pas vu un spectateur dans votre salle de spectacle ?
Bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Ça va faire un bon moment, puisque le premier confinement a eu lieu après le
17 mars.
À fait. On a pu réouvrir quelques semaines à partir de fin juin, et en fait on a vite refermé au mois d'octobre avec très peu de monde. Donc on va dire depuis fin octobre, on a vu aucun spectateur. Et c'est ça qui est inhumain, en fait, c'est de laisser un pays dans cet état depuis presque un an, de laisser des gens qui se foutent en l'air tous les jours. J'ai encore eu récemment dans mon entourage un restaurateur qui s'est foutu en l'air parce qu'il a tout perdu. Ça, c'est inhumain. Voilà, maintenant il faudrait que les choses reprennent, il faudrait que la vie reprenne, que la culture reprenne, que les salles rouvrent, que les restaurateurs rouvrent. Je pense que si on continue un peu plus comme ça, il y a de plus en plus de mouvements et de révoltes de gens qui veulent tout simplement vivre et travailler. Moi, j'aimerais qu'on réponde à des questions sur cette pandémie. J'ai encore vu des chiffres passer sur le taux de mortalité de cette pandémie de 0,05 ou 0,10, je ne sais plus, ou 0,17. En tout cas, avec un comparatif de la grippe, on est à une fois et demie ou deux fois au-dessus. J'aimerais qu'on nous réponde pourquoi on a mis le monde entier dans cette situation. Vraiment, une bonne fois pour toutes, c'est très agaçant. Vous savez, quand les gens qui prennent ces décisions, c'est des gens, et vous l'avez très bien dit Pascal, depuis en plusieurs fois vous l'avez dit, les gens qui prennent ces décisions ont des salaires, ils sont payés tous les mois, ils peuvent vivre, ils peuvent nourrir leur famille. Il y a énormément de gens dans ce pays qui sont en train de crever encore. Alors là, on nous parle de Sarkozy, de l'actualité, bon bien sûr, il faut en parler, je ne parle pas pour vous, hein, mais depuis deux jours, là, depuis que Sarkozy s'est sorti, l'affaire, bizarrement, le virus du Covid n'existe plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Mais là, vous exagérez. Vous exagérez, non, parce que ce matin, j'ai fait une émission à la télévision. Non, j'en ai parlé. Non. J'ai ouvert pendant une demi-heure là-dessus. Pascal, tout le monde parle, honnêtement, tout le monde parle et de Sarkozy et du Covid.
Non, mais.
À 50-50 de la même manière.
Pascal, qu'on en a ras-le-bol.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, je suis à 100% d'accord avec vous. Mais je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Aux uns et aux autres, manifestement.
Écoutez, on n'arrête pas. Les manifestations ne servent à rien, puisque.
Les gens sont assez résilients, les gens sont payés, Sébastien.
Mais oui, tant, mais
les gens sont,
dis, sont payés.
Voilà, ils sont payés, ils sont chez eux. Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui attendent tranquillement. Tranquillement.
Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas. On a vu les mouvements qui se sont mis en place de gens qui voulaient réouvrir les établissements. On vous tient vraiment avec les petites aides qui sont versées. On vous tient par ça. Vous pouvez pas bouger. Vous êtes dans une situation où si vous bougez, on vous coupe les aides, Pascal.
Bah, c'est normal.
Donc,
alors que les gens
bougent pas.
Gainsbourg.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Gainsbourg, on parle de Gainsbourg tout de suite après. Merci hein, Sébastien.
Merci.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est la chanson de Slogan.
Alors ça, je connais pas ça.
Le film Slogan, ça ne vous dit rien?
Non, je connais pas le
film. Gainsbourg et Birkin se sont rencontrés sur ce film.
Ah bon?
Je suis heureux de vous apprendre un truc.
Vous êtes sûr?
C'est tellement rare.
Tu t'en fous.
Elle joue dans la piscine, Jane Birkin. Elle est sublime. Et Gainsbourg a tellement peur que Delon lui pique sa femme ou sa fiancée du moment, qui venait sur le tournage en permanence, paraît-il.
Petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
shibam,
plop,
pub.
Distribue les swingers.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
60
Quelle époque, cette chanson, c'est vraiment la couleur, la mélodie, le climat d'une époque. Alors, nous sommes avec Michel, tiens.
Oui.
Bonjour Michel.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous, vous habitez Nantes, vous aimez Gainsbourg.
Voilà, oui. Pour moi, c'est un grand homme provocateur, mais grand homme et avec un très gros cœur.
Et Gainsbourg est entré dans votre vie intime?
Oui.
Pourquoi?
Parce que il y a une chanson qu'il a créée et qu'il a chantée, mais malheureusement, il ne l'a pas beaucoup chantée. Il l'a fait chanter plutôt par d'autres artistes, comme Jane Birkin, c'était pas une réussite, et puis surtout par Anna Karina.
Anna Karina, effectivement, qui était la compagne de Jean-Luc Godard.
Voilà.
Et qui, avec son chapeau, la chantait merveilleusement. Alors, quelle est cette chanson, Michel?
Eh bien, c'est « Sous le soleil », exactement.
Un peu précis.
Et alors, comment s'est passée la rencontre avec votre épouse?
Oh, tout simplement, il y avait ce disque-là qui passait, et puis, on était amis.
C'était un slow? Vous l'avez invité sur le slow? C'était où? C'était dans une boîte de nuit ou chez des amis?
Chez des amis.
Donc vous avez passé, à l'époque, c'était la chaîne IFI peut-être?
Ah bien sûr, oh, c'était pas si sophistiqué de ce qu'il peut y avoir maintenant.
Donc hein. Vous êtes allé, elle s'appelle comment votre épouse?
Marie-Paul.
Et donc ça c'était en quelle année?
Oh écoutez, c'était en 1967-68.
Ça vous a marqué manifestement la rencontre avec votre femme. Michel, bon donc vous êtes rencontrés et ensuite vous êtes mariés?
Ah bien sûr, en 72, là.
72. Et vous avez eu des enfants?
3 enfants.
Bon, et vous êtes toujours avec Marie-Paul?
Bien sûr.
Donc vous êtes mariés depuis 72, ça va faire 50 ans l'année prochaine.
Exact.
Et le plus dur est fait.
Attention, ouais.
Il y a eu quoi?
Ça n'a pas été toujours une mer d'huile, hein.
Pourquoi ça?
Comme dans chaque couple.
Des couples de 50 ans, vous savez, dans notre génération, il n'y en aura déjà plus. Et dans celle qui suit, il y en aura encore moins, de moins. Des gens qui vont rester 50 ans. Mes parents seront mariés depuis le 31 janvier 1959, personnellement. Ils sont toujours de ce monde. Donc, oui. Donc ils sont mariés depuis 62 ans, vous voyez.
Ah oui, nous, on fait partie des héros.
Des héros. Je ne sais pas si c'est un héros ou une héroïne. Bon, Michel, elle est avec vous, Marie-Paul?
Ah non, elle s'occupe de pas mal de choses au niveau social.
Donc vous êtes tout seul dans la maison?
Je suis suis tout seul.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire ? Avec qui ?
Non, une fois de plus.
Ah oui, parce qu'en plus...
dans le temps, quand je travaillais, j'étais commercial, j'étais jamais à la maison. Mmh. Et ma femme restait, elle avait arrêté de travailler...
Et là, c'est le contraire.
...pour s'occuper des enfants. Et maintenant, c'est le contraire.
Bon, ben merci Michel, je vous embrasse.
Allez, merci.
Je vous embrasse. On appelle Caroline, qui habite Montauban.
Oui.
Caroline.
Bonjour Pascal, merci de m'accueillir. Je vous en prie.
Qu'est-ce que vous aimez chez Gainsbourg ?
Alors, le côté bien sûr provocateur, mais pas que, parce que Serge Gainsbourg, c'était avant tout un homme qui touchait à tout, acteur, chanteur, poète. C'est ça que j'aimais chez lui, et puis sa grande culture. C'était quelqu'un qui aimait la musique classique, comme les poèmes de Verlaine et de Rimbaud, et il faisait un mix de tout ça avec un génie sans nom. C'était plus que magnifique. Quoi.
Est-ce que vous avez une chanson que vous aimez particulièrement ?
Alors oui, il y en a plusieurs. Donc il y a « Je suis venu te dire que je m'en vais »,« Dieu est un fumeur de Havane » et aussi il y a « Là l'amour ». Alors je ne sais pas si vous la connaissez.
Non, celle-là je ne la connais pas, je crois.
Et c'est une chanson qui est un peu moins connue et il avait inventé
là, l'amour.
Le mot « Là l'amour », oui, exactement.
Nous l'avons bien sûr.
Ben, on va l'écouter.
Super.
Écoutons. C'est, elle est peu connue, hein, celle-là, mais effectivement, Caroline...
Et oui.
Très, très bien.
C'est une chanson qu'il a très peu chantée, d'ailleurs, à mon grand regret. Il avait inventé le terme « un amour ». Il aurait très bien pu dire « désamour » à la place. Mais quand on voit la différence au niveau de la sonorité, le « désamour », c'est pas très joli. Tandis que « un amour », ça fait beaucoup plus fluide et c'est encore un peu plus limite sensuel, vous voyez. Donc je pense que Gainsbourg, il choisissait pas les mots hasard. Et cette chanson-là, elle a une, en plus de son rythme bien particulier, elle évoque en même temps le voyage et les difficultés des relations amoureuses. Et c'est vrai que on n'en fait plus des chansons comme ça. Vous voyez, il était dans aucun stéréotype. Et c'est ça que j'aimais beaucoup chez lui. Il rentrait pas dans une case. On pouvait pas le classer dans tel ou tel style. Et ça, moi, j'aime beaucoup les artistes comme lui. Parce que justement, il s'en fichait du système. Il se moquait de ce que pouvaient penser les autres. Il faisait son travail d'artiste. Et puis après, peu importe si ça plaisait ou pas, c'était lui, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime aussi chez lui. Et d'autre part, en plus, vous évoquiez au début le film Slogan. Et en fait, il faut savoir qu'il a fait aussi la bande originale de Pacha avec Requiem pour un con.
Ouais, je me souviens de Pacha, qui doit être un film de Georges Lautner
avec Jean Gabin.
Bien sûr, qui passe régulièrement. Alors, Là l'amour, je pense que c'est formidable, Caroline, parce que vous avez fait découvrir sans doute cette chanson à beaucoup d'auditeurs. Là l'amour, chanson de 69, aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la porte exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors, ce récit de l'étrange histoire de les anamours transitoires de Belle au bois dormant qui dort. C'est vraiment du Gainsbourg, hein. C'est très très
ah
bien
oui.
écrit.
Ah
c'est
oui,
très
moi
bien
j'adore,
écrit.
J'adore. Ouais. Vous savez, c'est des gens pour moi qui ont fait partie de mes mentors, notamment Berger, Hallyday, Balavoine. C'est des gens qui ne pouvaient pas rester dans juste un petit système comme ça. S'ils ont existé aussi longtemps, c'est parce qu'ils avaient une personnalité hors norme.
Évidemment, Caroline, la pub à tout de suite.
Tu n'es pas même une hésitation.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Formidable ça. Ça y est, lorsque Brigitte Bardot a quitté. Parce qu'elle était avec Gunter Sachs à ce moment-là. Elle a quitté Gainsbourg. Gainsbourg a dit « C'est comme si elle m'avait arraché le cœur. » Michel Bébé, Brigitte Bardot.
Tandis que les médailles...
Il faut se souvenir ce qu'était Brigitte Bardot en 65. L'icône absolue, la plus belle femme du monde. Nils est avec nous. Bonjour Nils.
Le
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous aimez chez Gainsbourg ?
Eh bien, écoutez, moi, c'est déjà quelqu'un que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années. À l'époque, j'avais 17 ans. Et à l'époque, moi, j'adorais le côté Gainsbourg, c'est-à-dire le côté tout le temps alcoolisé, le côté tout le temps dans la provocation. Et bizarrement, bah, 20 ans plus tard, c'est le côté que j'aime le moins. Parce que je trouve que dans les années 80, finalement, il était, voilà, il renvoyait plutôt une image négative, l'image de peut-être de quelqu'un de provocant, de tout le temps alcoolisé, qui était quand même assez inaudible quand il passait à la télévision. Et en fait, quand on connaît un peu sa vie à Gainsbourg, on s'aperçoit que c'était en fait quelqu'un d'extrêmement pudique. D'ailleurs, Jane Birkin dira à son sujet que c'était quelqu'un qui se trimballait jamais tout nu à la maison parce qu'il était extrêmement pudique. Donc quelqu'un de pudique et puis aussi je dirais aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent, par exemple, il adorait se trimballer avec une mallette qui était bourrée d'argent et puis distribuer comme ça, à l'époque on appelait ça des pascals, et distribuer comme ça de l'argent aux pauvres, aux gens, à des chauffeurs de taxi. Ben voilà, moi c'est un peu ce que je retiens.
Ben merci Nils. Merci, il est déjà 14h23, c'est l'heure du débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Nicolas Sarkozy, premier ancien président de la 5e République, condamné à de la prison ferme un an pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Alors l'ancien chef de l'État a-t-il été jugé comme n'importe quel Français ? Quelle est la tendance au 32-10, Pascal ?
Il y a plus de gens qui défendent Nicolas Sarkozy que d'auditeurs qui l'attaquent depuis hier soir. C'est une grande tendance.
Eh bien, vérifions. Donnons la parole à Thierry.
De toute façon, dès le début, il y a toujours eu une enquête à charge. Il n'y a jamais eu une enquête à décharge vis-à-vis de Nicolas Sarkozy.
Bon, José, qu'en pense-t-il ?
Sur ce dossier, je rappellerai juste les propos de M. Sarkozy à l'époque où il avait des responsabilités, qui disait « aucun aménagement de peine au-dessus d'une condamnation de 6 mois ». Voilà, et je voudrais juste qu'on puisse appliquer ça à M. Sarkozy.
Mais pourquoi pas, mais...
Alors, continuons également avec Léo.
Sa peine, s'il l'écoule, il va très certainement pouvoir l'écouler à la Villa de Montmorency ou à la demeure de Carla Bruni au Cap Nègre. Oui, oui. Donc évidemment que
on sent Léo que ça vous fait plaisir.
Je rappelle votre analyse, ami Pascal, en début d'émission.
Il y a plus de gens qui défendent Nicolas Sarkozy que d'auditeurs qui l'attaquent depuis hier soir. C'est une grande tendance.
N'était pas. Allez, Charles souhaite réagir aux propos de Léo.
Je ne suis pas choqué par les propos de Léo parce que il procède d'une méconnaissance du droit, de la justice, donc on peut lui pardonner, puis il est jeune et très certainement passionné.
Allez, la journée mondiale du compliment, c'est tous les jours avec vous, Pascal.
Vous n'étiez pas né il y a 30 ans, Charles.
Si, bien sûr.
Vous étiez tout petit.
J'avais 9 ans.
Ah bon, quand même.
Oui.
Ah, vous faites jeune.
Gentil compliment, bien tenté quand même. Une heure plus tard, vous récidivez avec notre présentateur des Flash, Olivier Bois. Jingle spécial, Greg, pour Olivier. Allez-y, complimentez-le, Pascal, comme Greg.
Alors, Olivier Bois fait son entrée dans le studio, j'allais dire dans le bureau. Il n'était pas né, Olivier Bois, en 81.
Si,
en
91. Déjà 15 ans reçu.
Enfin, Pascal, quand même.
91, vous étiez né.
Vous me voyez beaucoup plus jeune que je ne le suis.
Faites jeune.
Ah ouais, vous aussi, vous faites jeune. Décidément, à moi, par contre, vous ne m'avez rien dit. Et vous avez été trop sympa aujourd'hui.
La ville n'était pas née en 91. Je la vois, elle est derrière
Fake news. Pascal, vous avez été trop sympa aujourd'hui. Bah,
c'est
du
vrai.
Coup, vous ne lancez plus Olivier Bois de la même façon à 14h pour le Flash. Non, bah Olivier se lance lui-même.
Le Flash avec la situation sanitaire qui s'aggrave.
Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et à la fin des 2 minutes d'information...
Non, je souris parce que vous avez dit le Flash, parce que
oui.
J'aurais pu le dire, effectivement.
Non, parce que
vous avez
lancé un peu à l'emporte-pièce, on peut
à
dire.
Ou quoi, non, à l'américaine. À l'américaine.
C'est beau,
tout à l'heure à 15h pour un meilleur lancement avec Flavie. Évidemment.
Et un immense bravo aujourd'hui à Michel. Ce n'est pas tous les jours, 50 ans de mariage.
Ça va faire 50 ans l'année prochaine.
Exact.
Et le plus dur est fait.
Attention, ouais.
Il y a eu quoi ?
Ça n'a pas été toujours une mer d'huile. Hein. Ben, nous, on fait partie des héros.
Ah ben...
Vive les héros du quotidien. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. 14h27, il est donc l'heure de vous faire une annonce.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Elle est géniale, cette chanson.
Et t'es là, on est pour rien changer.
C'est terrible. Mais ça, c'est un bon sujet pour Flavie Flamand, parce que moi, j'adore les sujets comme cela, comment quitter quelqu'un? Ça, je ne sais pas si vous l'avez traité une fois, cher Flavie, ce sujet. Comment quitter quelqu'un? Je trouve que c'est un superbe sujet, parce que paraît-il qu'aujourd'hui, c'est horrible. Les gens, l'homme ou la fille part, mais ne prévient pas. Ça s'appelle le ghost quelque chose. Le ghost comment?
Le ghosting.
Le ghosting, wow. Du ghost fantôme. Ça, c'est un bon sujet. Comment quitter quelqu'un?
Par Facebook.
Ah, c'est élégant. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.